chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, très heureux de vous retrouver dans ce libre journal des amitiés françaises pour 3 heures d'émission en direct de partie, comme à l'habitude. Tout d'abord, nous recevons le général Philippe Sidoz, à l'occasion de la publication de son livre original et passionnant, original parce que ce sujet est très peu traité, les guerres d'Afghanistan. Ce sont les guerres britanniques, soviétique et américaine toute récente, donc en Afghanistan, qu'il publie aux éditions Perrin. C'est une co-édition Perrin Ministère des Armées. Le général Sidoz est déjà venu à plusieurs reprises à l'occasion de ce livre. Eh bien, nous allons traiter aujourd'hui, c'est la deuxième émission que nous réalisons spécifiquement sur la guerre américaine en Afghanistan. Et puis à 19h30, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Colson, qui est historien, professeur d'université, qui publie aux éditions Perrin dans la collection Tempus une belle biographie consacrée à Clausewitz. Clausewitz, c'est le titre de ce livre d'ailleurs, et le titre de l'émission, c'est Clausewitz, chef de guerre et stratégique. Donc 3 heures d'histoire militaire, chers auditeurs de Radio Courtoisie, mais qui nous plonge aussi dans l'actualité. Nous allons le voir, et Clausewitz d'ailleurs est toujours très actuel. L'histoire, c'est vrai, en ce moment, est beaucoup constituée des guerres notamment au Proche et au Moyen-Orient. Je rappelle que Laurent est au standard et sera ravi de prendre tous vos messages, vos questions, vos remarques que nous proposerons à nos invités. Je rappelle que vous pouvez le faire par courrier électronique à l'adresse suivante courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou par téléphone bien sûr. Et vous aurez à ce moment-là Laurent au téléphone au 01 46 51 00 85 01. 46 51 00 85. Nous abordons donc maintenant la première partie de cette émission. Le Proche et le Moyen-Orient sont dévorés par la guerre. Les conflits se succèdent sans interruption depuis l'intervention américaine en Irak et en Afghanistan. Bien sûr, actuellement, l'Iran concentre toute notre attention. Mais il y a aussi la Syrie, à laquelle nous avons consacré l'émission de dimanche dernier, qui est encore malheureusement riche de conflits potentiels, qu'ils soient ethniques ou religieux. Les États-Unis sont souvent d'ailleurs les acteurs directs ou indirects d'ailleurs de ces conflits. Ils obtiennent souvent des victoires rapides grâce à la combinaison de leurs forces spéciales, aux talents impressionnants, grâce aussi à la technologie et naturellement à la puissance de leur appui aérien. Puis vient l'enlisement et puis la lassitude de l'opinion et des dirigeants. Ce processus, c'est bien entendu celui de la guerre américaine en Afghanistan, qui a été déclenchée en 2001, notamment pour éliminer Ben Laden et ses soutiens. Sera-t-il ce processus celui de la nouvelle guerre en Iran? Le général Sidoz nous avait raconté cette première étape de la guerre américaine en Afghanistan, celle constituée justement avant tout par les bombardements et l'intervention des forces spéciales. C'est une étape très impressionnante où quelques centaines d'hommes réussissent, bien sûr, avec leur soutien locaux, à renverser le régime des talibans. Et cette intervention est impressionnante aussi par la rapidité du succès et l'efficacité redoutable de l'armée américaine. En effet, cette armée impressionne par son efficacité, par ses moyens, mais aussi, il faut le dire, par sa détermination et le courage de ses soldats, qualité qu'elle va montrer d'ailleurs tout au long de ce très long conflit afghan d'une vingtaine d'années. Il y a d'ailleurs à cet égard de fortes similitudes, c'est ce que nous verrons avec notre invité, entre l'intervention soviétique en Afghanistan et la guerre américaine. Nous reprenons cette histoire en 2002, là où nous l'avions laissée à notre précédente émission. Effectivement, cette année, on représente un tournant dans ce conflit avec la décision des Américains de rester sur place, de former l'armée afghane et bien sûr de soutenir le régime qu'ils auront contribué à installer. C'est un sujet, chers auditeurs, qui est toujours d'actualité, car l'Afghanistan, et c'est tout récent, est à nouveau en guerre. Mais étonnamment, cette nouvelle guerre oppose maintenant deux anciens alliés, les talibans et le Pakistan. Nous interrogerons bien sûr notre invité, le général Sidos, qui est un spécialiste de cette zone. Il y est allé à plusieurs reprises, il y a servi à de nombreuses reprises, et nous lui demandons effectivement son avis sur les raisons de cette guerre entre anciens amis. Je rappelle le titre du livre du général Sidos, « Les guerres d'Afghanistan », co-publié donc aux éditions Perrin, ministère des armées. Général Sidos, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, en direct dans ce studio, où nous vous en sommes particulièrement reconnaissants, parce que vous avez eu quelques journées fatigantes, vous êtes venu régulièrement sur CNews pour venir commenter les conflits. On est vraiment dans un monde de guerre. Actuellement, le dernier conflit, bien entendu, c'est celui de l'Iran, mais aussi celui qui agite de nouveau l'Afghanistan face aux Pakistanais. Donc, nous sommes très reconnaissants de venir commenter ce soir cette guerre américaine en Afghanistan, et nous le verrons, qui présente sans doute quelques similitudes avec celle qui a été engagé en Iran, même si pour le moment il n'y a pas de troupes au sol, il y a probablement des troupes spéciales en Iran.
C'est toujours délicat spéciales. De savoir ça, c'est possible. Enfin, de toute façon, il y en a en Irak déjà.
Donc, c'est frontalier. Oui, ils sont présents en Irak, comme les Françaises d'ailleurs.
Voilà, comme le Français, le sous-officier qui a été tué, l'agent chef
Fillon. Oui.
Et en fait, la guerre en Irak, l'Irak est frontalière de l'Iran. Les milices chiites soutenues par l'Iran lancent des attaques. Hein. Ils ont lancé une attaque. Ce sont des attaques modestes, ce ne sont pas des grandes attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad, hein, et puis contre un certain nombre de postes, dont le poste où a été tué notre sous-officier.
Donc on peut imaginer que ces forces spéciales franchissent la frontière.
Alors les forces spéciales, elles doivent
entre l'Irak et l'Iran.
Certainement, elles soutiennent les Kurdes, hein, de toute façon. Ouais. Mais alors après, la différence majeure qu'il pourrait y avoir par rapport à l'intervention en Afghanistan, alors certains commentateurs en ont parlé, on l'a vu la dernière fois, que le succès de l'entrée des Américains en Afghanistan a été quand même énormément liée à la coopération qu'ils ont eue et au soutien qu'ils ont apporté à l'Alliance du Nord.
Oui.
En fait, la grande différence, elle est là. Il ne faut jamais oublier que les troupes de l'Alliance du Nord étaient à quelques kilomètres de Kaboul, au nord. L'Alliance du Nord était implantée au nord de l'Afghanistan et à l'ouest avec Ismail Khan. Mais surtout, il y avait un front, et puis avec des gens du terrain, et puis des forces très conséquentes. Et en fait, les Américains sont venus et ils ont apporté à l'Alliance du Nord ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire la puissance de feu. La puissance de feu qui permettait de détruire les positions, en fait, hein, des talibans qui s'étaient transformés depuis leur création en 1994, la conquête de Kaboul 1996, c'était une force très mobile, très souple. C'était pas une force de guérilla, mais une force d'infanterie légère ou de cavalerie légère, plutôt montée sur des pick-up et qui agissait très rapidement. Une force révolutionnaire, une façon de combat de façon. Et puis après, il s'était installé, je dirais, pas dans le confort de la guerre, mais quasiment. Enfin, il y avait des lignes de front. Et des lignes de front face à Dostum au nord et des lignes de front face à au Badarchan, au nord, au nord-est. Eh bien, ces lignes de front, tout simplement, quand les Américains arrivent, proposent leur service à l'Alliance du Nord, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent des équipes de guidage aérien. Et le guidage aérien permet de mettre en œuvre ce qui a toujours fait apporter la supériorité aux Américains, c'est leur aviation. Alors l'aviation qui agit en ce moment en Iran, hein, c'est la grande démonstration de force de l'aviation américaine, hein, qu'elle soit de l'US Air Force ou de l'US Navy. Et donc là, sont intervenus toute la gamme des avions américains possibles et imaginables, du B-52 au F-15, au F-16, chasseurs-bombardiers ou A-10 spécialisés dans l'attaque au sol. Et puis ces avions, ils restent en vol très longtemps, puisque les Américains ont une flotte de ravitailleurs qui permet de rester des heures aux équipages. Après, la seule chose qui limite, c'est la fatigue des équipages. Et puis les contrôleurs aériens américains appelaient ces avions qui tournaient et les appelaient pour intervenir sur tel ou tel objectif. Et après, ben, les gens de l'Alliance du Nord, en particulier Dostum, hein, ça a été les premiers succès. Il y a eu un film qui a été fait là-dessus, qui s'appelle Horse Soldiers, les cavaliers. Ben, ça tombe très bien, parce qu'en fait, le début de cette guerre est une quasi-mythologie, puisqu'elle ressemble énormément, c'est une aventure en fait, c'est une énorme aventure. Et c'est d'autant plus une aventure pour les Américains, parce qu'ils ne subissent pas de pertes. Et ils lancent de très très belles opérations techniquement. Alors ils lancent des opérations purement américaines, au sud en particulier, avec les Rangers, avec des forces spéciales, les fameuses l'unité Delta. Alors des opérations très risquées, des opérations très dangereuses et très risquées, à partir de porte-avions, avec des vols en hélicoptère. En particulier, il y a une opération avec un vol en hélicoptère de 15 heures. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie, le nombre de ravitaillements en vol. Et puis bah, les personnels qui débarquent au bout de 15 heures, sur de nuit toujours. Hein. Alors avec des objectifs, soit vérifier l'aérodrome de Kandahar, soit tenter de capturer Mollah Omar. Alors bien sûr, on agit toujours avec des renseignements, les renseignements dont on dispose. Alors il y a des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas. Alors ce qui reste, c'est la technique. Ce qui reste, c'est l'efficacité et la planification, l'organisation, le travail d'état-major des Américains. Donc ça, c'est toujours une très belle démonstration. Et ce qui se passe au Nord, eh bien, alors là, c'est carrément de l'appui-feu. C'est de l'appui-feu au profit de l'Alliance du Nord, mais qui permet tout doucement de casser le front tenu par les talibans, soutenu par l'armée, par des unités de l'armée pakistanaise. Alors une fois que le front est rompu, Et là, c'est là où il y a déjà, dès cette période-là, il y a des oppositions entre les conceptions politiques des Américains et la réalité des vainqueurs de l'Alliance du Nord, qui sont majoritairement des Tadjiks. Les Américains voulaient, en fait, que ce soit des Pashtuns. Alors, le problème des Pashtuns, c'est que les Pashtuns, c'est eux qui fournissaient les gros bataillons des Talibans. Alors, il y avait des Pashtuns qui étaient opposés aux Talibans. Comme Karzai, comme le président Karzai qui a été choisi, qui lui est intervenu au sud, effectivement, dès le début, avec, pareil, des équipes américaines pour prendre pied. Mais alors, il y avait beaucoup moins de troupes pour l'aider. Il y avait beaucoup moins de troupes constituées. Il n'y avait pas d'alliance, l'Alliance du Nord porte son nom. Hein. Et au sud, bon, il y avait Abdullah également, hein, quelqu'un qui avait la faveur des Américains, mais il lance une opération qui échoue. Qui échoue parce qu'il est capturé par les talibans, il est exécuté. Bon, alors après, avec Hamid Karzai, les Américains font un peu plus attention et lui envoient une équipe, une de ces équipes dont on avait parlé, Operational Detachment Alpha, équipe de forces spéciales, qui l'aide. Alors il y a des combats, il rallie un certain nombre de partisans, il y a quelques combats, mais des combats délicats d'ailleurs, hein, des combats où le succès n'est pas du tout assuré. Et puis comme il y a du succès au Nord, et ben par influence, les talibans se décomposent également au Sud. Et puis Karzai rentre dans des négociations avec les talibans. Ça, c'est quelque chose qui va...
Alors, je vous propose que nous reprenions à ce moment-là, parce que c'est on en était resté à la première émission, en effet, à cette période, avec, donc, vous l'avez rappelé, l'action déterminante des forces spéciales américaines, du bombardement aérien américain en appui, en effet, des forces au sol, notamment de l'Alliance du Nord. Et c'est là qu'intervient Karzai. Alors justement, c'est là où nous avions laissé notre émission et où nous allons la reprendre. Alors Général Sido, si vous voulez aussi, j'aimerais bien vous représenter aux auditeurs de Radio Courtoisie, et puis vous poser quand même cette question qui est d'actualité, hein, sur cette guerre pakistano-afghane. Très, très surprenante quand on voit ça de l'extérieur. Vous êtes tellement nous en expliquer les raisons. Et puis nous reprendrons effectivement l'histoire de cette intervention américaine à 2002, hein, où justement on assiste à l'effondrement progressif des talibans et la mise en place d'une nouvelle constitution et du gouvernement donc Karzai. Alors que vous nous expliquerez en effet comment il a été choisi et par qui il a été choisi, sachant que en effet le successeur voulu par les Américains a été tué. Hein, Alors, je vous rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, parce que nous avons eu le plaisir de vous recevoir plusieurs fois, que vous êtes un Syrien, vous êtes docteur en histoire militaire, vous êtes diplômé des langues orientales en option russe, vous connaissez en effet très bien cette zone des pays de l'Est et du Moyen-Orient, puisque vous y avez servi à de nombreuses reprises. Vous avez tout d'abord été attaché des forces terrestres en Russie et attaché de défense non résistant au Kazakhstan et au Tadjikistan. Puis vous avez été attaché militaire au Tadjikistan. Vous avez été attaché militaire à l'ambassade de France au Kazakhstan. Et puis, entre-temps, s'est intercalé un poste sur une zone différente. Vous étiez au sud Liban, dans le cadre de la FINUL. Et enfin, où ça risque de chauffer sans doute, d'ailleurs, pour la FINUL, dans une position très désagréable en ce moment. Et puis, vous avez donc fait plusieurs séjours en Afghanistan, tout d'abord en 2001-2002, justement, cette histoire que vous nous racontez avec l'effondrement des talibans et la mise en place du nouveau régime, ça vous l'avez vécu d'ailleurs personnellement à Kaboul, c'était en 2001-2002, vous avez passé un an sur place entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, en 2004 vous étiez 6 mois en Afghanistan et vous avez recommencé pour compte de l'OTAN en 2012 pour 6 mois. C'est-à-dire que vous avez une très riche expérience de cette zone. Alors, mon général, si vous le voulez bien, un mot quand même sur ce nouveau conflit qui oppose les deux anciens alliés et d'hier.
Alors, les intérêts sont différents, tout simplement, et puis c'est tout simplement l'héritage...
Donc, les Afghans et les talibans, en fait, et les Pakistanais.
Et les Pashtuns. Les talibans Pashtuns. Parce que bon, c'est le résultat de la frontière, de la ligne Durand. C'est le résultat de la ligne tracée en 1893 par les Anglais pour s'assurer une séparation entre leur empire et le royaume d'Afghanistan. Mais en fait, c'est quand même assez connu de beaucoup de gens, ça sépare les tribus Pashtuns, cette ligne. Et bien maintenant, la réalité revient, puisque les talibans, majoritairement Pashtuns, sont vainqueurs, ont été vainqueurs en 2021 en Afghanistan. Mais très rapidement, les dissensions apparaissent avec les Pakistanais, qui, eux, ont d'autres intérêts. En fait, quand ils soutiennent les talibans, ils soutiennent les talibans pour s'assurer cette influence dans cet espace afghan qu'ils ne veulent pas abandonner potentiellement à l'Inde ou à une autre puissance, quelle qu'elle soit. Ce qu'ils veulent au niveau géopolitique, c'est avoir un regard sur cet espace. C'est aussi simple que ça. Et en fait, les Pakistanais renouvellent un peu ce qu'on a vu tout au début, ce que faisait le royaume sikh et après ce qu'ont fait les Britanniques. Alors, vous voyez, ça vient de cette zone pakistano de l'Empire des Indes vers l'Afghanistan. Donc les Pakistanais ont soutenu, bien évidemment, à l'origine, les Moudjahidines contre les Soviétiques, puis les talibans. Alors c'est ambigu, cette affaire de soutien aux talibans, parce bien évidemment, puisque les Pakistanais sont proches, disons, des Américains, tout au moins les Américains ont toujours cherché à composer avec eux. Et ce qui a créé, d'ailleurs, pour tout le conflit, les 20 ans de présence américaine, de présence américaine dans la guerre en Afghanistan, énormément d'ambiguïté avec le Pakistan, qui a joué un double jeu. Il est évident que les Pakistanais ont largement soutenu la création du mouvement taliban, puisqu'ils intervenaient, je l'ai dit en début, en 2001, des unités complètes, des brigades d'artillerie, alors je dis brigades d'artillerie pakistanaises, se battaient contre l'Alliance du Nord. Alors je dis ça parce que quand j'avais rencontré Abdullah Abdullah, qui était le ministre des Affaires étrangères de Massoud en 2001 à Douchanbé, il m'avait présenté la situation. Alors il faut quand même avouer, il faut reconnaître qu'en 2001, j'arrive, et comme beaucoup de gens, je ne connais pas très très bien la situation. Bon, je l'avais un peu suivi à Moscou. Bon, mais quand vous avez quelqu'un comme Abdullah qui vous explique sa situation, tout au moins son point de vue sur la situation, vous l'écoutez religieusement et ça vous marque. Et donc il me parle des Pakistanais. Et les Pakistanais, effectivement, quand il y a cette grande offensive de l'Alliance du Nord en 2001, se trouvent enfermés à Kunduz. Et bien, qu'est-ce qui se passe?
Alors Kunduz, ça se trouve...
C'est au nord de l'Afghanistan.
Au nord, hein,
nord de Kaboul, largement au nord de Kaboul.
On n'est pas très loin de la frontière pakistanaise, alors?
Très loin, très loin.
Ah, on est loin de la frontière pakistanaise.
Non, très loin de la frontière pakistanaise.
D'accord. Donc hier, il y a des Pakistanais à Kunduz.
Et il y avait, ils assistaient les talibans, parce que l'objectif était quand même... de vaincre l'Alliance du Nord, de chasser complètement l'Alliance du Nord d'Afghanistan, de détruire cette opposition. Alors, ils y sont arrivés. Après 2021, ils contrôlent tout le territoire. Le résultat de ces 20 ans de guerre, c'est que les talibans, maintenant, contrôlent l'ensemble du territoire. Bon. Et donc, et ces Pakistanais sont évacués. Il y a un cessez-le-feu qui est établi et sont évacués bon, par des avions pakistanais, mais avec, bien évidemment, l'accord des Américains. Parce que les Américains veulent, d'abord, quand le président Musharraf, en 2001, hésite à soutenir l'intervention, puisque les services secrets... Alors, le Pakistan, ce n'est pas un État totalement uni, ils en ont un problème. On en parle avec l'Iran en ce moment, avec le Baloutchistan. Mais en fait, il y a toute la zone, les provinces nord-ouest, qui sont des zones pas vraiment, vraiment contrôlées par le gouvernement pakistanais. Et en même temps, au sein du gouvernement, de l'État pakistanais, vous avez les politiques et puis vous avez les services de renseignement, le fameux ISI. Et l'ISI est un mouvement enfin, de renseignement militaire opérationnel totalement fondamentaliste islamiste, hein, ça, c'est clair. Donc forcément, ils ont trouvé intérêt à soutenir les talibans. Dès la victoire américaine, dès l'effondrement des talibans en Afghanistan, dès 2002, il y a des réunions. Les talibans, intelligemment, pour sauver les meubles, abandonnent le terrain, se réfugient dans les zones tribales pakistanaises, où ils sont accueillis par les Pakistanais. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, c'est très clair. Et les services secrets pakistanais bah, préparent avec eux la nouvelle opposition, la nouvelle insurrection. Bon. Après, il y a toute la période qui arrive à 2021, août 2021, victoire des talibans. Mais très rapidement, il y a des dissensions qui apparaissent. Moi, je me rappelle avoir lu des articles, ça paraît surprenant. Pourquoi, etc. Non. Eh bien, les vainqueurs, les deux vainqueurs, les talibans et les pakistanais, n'ont plus du tout les mêmes intérêts. Les talibans sont farouchement, le terme est impropre, mais c'est un mouvement foncièrement pashtoun-afghan. Pashtoun et afghan. La majorité des pashtouns n'est pas en Afghanistan, ils sont au Pakistan. Et il y avait un mouvement, le Tehrik-e-Taliban, TTT, TTP, pardon, Tehrik-e-Taliban Pakistan, qui est un mouvement d'opposition. Pendant toute la guerre, ils se sont battus contre les Américains, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et bah, là, les talibans de Kaboul bah, tendent la main à ce mouvement d'opposition au gouvernement pakistanais. Ils leur tendent la main par solidarité ethnique, tout simplement.
Concrètement, tendre la main, ça veut dire quoi ?
Bah, tendre la main militairement, opérationnellement. C'est-à-dire qu'ils les soutiennent, ils les accueillent, puisque ces pashtouns du Pakistan se battent contre le gouvernement pakistanais, bah, maintenant ils trouvent également une zone refuge en Afghanistan.
C'est l'inverse qui se produit. Il y a une guérilla entre les pashtouns pakistanais et le gouvernement pakistanais. Ouais, une forme de guerre.
Une forme de guerre très sérieuse. Mmh. Alors en fait,
qui existait avant, les pakistanais.
Oui, ça existait. Ça a également existé pendant l'intervention américaine.
On a un peu l'impression qu'il se passe ce qui s'est passé entre lorsque les soviétiques se sont battus contre les moudjahidines ont été armés par les Américains et après se sont retournés contre les Américains. On a un peu le sentiment que c'est un peu la même histoire. Les Pakistanais ont armé les talibans et maintenant ont soutenu les talibans, les ont aidés à vaincre cette guerre. Et maintenant, ça se retourne contre eux. Quoi.
Oui, parce qu'en fait, ce sont des alliances d'opportunités. On poursuit un objectif stratégique, et puis ben, une fois qu'il est atteint, une fois que la victoire est atteinte, ben, les Pakistanais n'en recueillent pas les bénéfices. Ils n'en recueillent pas les bénéfices. Alors là, on a eu récemment un certain nombre d'incidents. Kaboul a été bombardé par les Pakistanais il y a, je crois, un mois. Kandahar a été bombardé. Les Pakistanais ont bombardé...
C'est l'aviation pakistanaise qui bombarde.
Oui, l'aviation. Ils ont bombardé des dépôts de carburant. Des dépôts de carburant à Kandahar. Et donc voilà, mais ça c'est très récent. Ça a 15 jours. Plus bon, toute une série d'affrontements sur la ligne du rang, hein, dans cette zone. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant à voir, c'est que les talibans sont équipés, entre guillemets, à l'américaine, puisqu'ils ont récupéré tout le matériel.
Tous les stocks,
alors, on le voit avec des Humvee, les fameux véhicules américains, habillés soit avec ce costume dont on a l'habitude, soit carrément habillés avec du treillis à l'occidental. Hein. C'est assez intéressant à observer. Et là, donc, il y a une véritable opposition, mais même religieuse. Hein. C'est carrément, on parle de djihad. Le terme employé, c'est du djihad. Hein. Alors, les mollahs afghans proclament le djihad contre les Pakistanais. Voilà. Bon, alors, c'est une guerre à bas bruit, hein, je veux dire, personne ne va s'en mêler de cette guerre-là. Parce que c'est, l'arme atomique détenue par les Pakistanais, ils ne vont pas l'utiliser, il n'y a pas de raison. Par contre, il va falloir, pour eux, leur intérêt, c'est bah, d'établir le contrôle bah, jusqu'à la ligne du rang. La ligne du rang n'est pas reconnue par l'Afghanistan. Alors ça, c'était aussi un point commun entre les talibans afghans et le gouvernement de Karzai, qui ne reconnaissait pas cette ligne du rang. Ah oui, donc il y a une continuité. Et d'ailleurs, pour toujours faire un résumé, pour raccourcir l'histoire, Karzai, donc, qui est le président, qui a fait deux mandats quand même, hein, deux mandats soutenus par les Américains, avec un certain nombre de positionnements très personnels de Karzai, hein, mais bon, ça c'est intéressant à observer comme personnage. Eh bien, Karzai, avec Abdullah Abdullah, qui est son vice-président, qui est le vice-président de Ghani, à la fin de... Ashraf Ghani succède à Karzai, après les deux mandats qu'il a effectués comme président. Abdullah Abdullah est président de la réconciliation nationale, on retrouve d'ailleurs un petit peu le même vocabulaire qu'à l'époque soviétique. Bah, ces deux personnages accueillent les talibans à Kaboul. Ils sont à Kaboul quand les talibans rentrent, et ils y sont toujours, sans aucun problème. Alors, j'ai plus maintenant énormément d'informations et de détails, hein, mais pendant quelques années, et même Abdullah Abdullah a quitté l'Afghanistan, donc s'il avait vraiment voulu s'enfuir, il aurait pu le faire, il est revenu à Kaboul. Parce qu'en fait, là, alors, autant Karzai est un pachtoun ethnique, c'est très important, on en parle sans arrêt, ça, hein, l'ethnie en Afghanistan, autant Abdullah Abdullah est moitié tadjik, moitié pachtoun. Bon, bon, il est quand même un peu pachtoun. Mais en fait, vous voyez, il y a toutes ces guerres ont créé un véritable nationalisme afghan, quelque part.
Mais justement, quelle issue voyez-vous, quelle évolution voyez-vous à ce conflit? Ça restera un conflit très limité, frontalier?
Oui, bon, c'est toujours difficile hein, de se projeter. Oui. Alors, en fait, bon, les Pakistanais bah, ont hérité de ces frontières de l'Empire britannique. Hein, et en fait, ils connaissent les mêmes problèmes ont connu les troupes britanniques pendant leur présence, c'est-à-dire une guérilla permanente. Une guérilla permanente sur ces confins montagneux. Alors, on a tous vu quelques films, les trois lancers du Bengale, voilà. C'est l'image qu'il faut avoir. Des combats permanents. Et puis alors, on va rentrer forcément, au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Je veux dire, et le combat, c'est ça, faute de combattants. Faut pas, les guerres s'arrêtent toujours un moment. On discute, on négocie, on s'arrange, et puis après, voilà. Ça va durer un certain temps. Mais bon, il est évident que les Pakistanais ne pourront pas vaincre militairement les talibans. De la même façon que les talibans, même s'ils soutiennent les talibans du Pakistan, n'arriveront pas à vaincre l'État pakistanais. Il ne faut pas imaginer ça. Donc on va avoir des conflits, un conflit qui va se perpétuer, bon, qui intéressera quelques spécialistes. Et puis on voudra, bien sûr, ne plus s'y intéresser. Cette zone qui était...
Ça restera une zone conflictuelle, un abcès qui sera...
Alors, c'est un abcès local.
Local, oui.
Voilà, je pense qu'il ne faut pas... Mais ça, c'est le problème du découpage du Pakistan. D'un côté, le Cachemire, de l'autre côté, la ligne Durand. Bon, voilà.
Merci, Général Sidos, de nous avoir éclairé sur ce nouveau conflit hein, dans cette zone si agitée. Je vous propose de revenir à cette guerre américaine en Afghanistan. Donc, vous nous en avez fait un résumé avec cette combinaison force spéciale, bombardement aérien, intervention des troupes au sol qui vont aboutir en effet à la chute de Kaboul 2002. Hein, c'est les talibans qui progressivement évacuent toute leur zone et se réfugient dans leur zone tribale. Hein, il y a l'abandon de Mazar Sharif, il y a l'abandon de Kunduz, il y a la prise de Kandahar. Vous expliquez d'ailleurs dans cette période, dans ces combats de 2002, qu'une erreur a été commise, alors était-ce voulue par les troupes de l'Alliance du Nord, par Karzai ou par les Américains, c'est qu'on accorde l'amnistie aux talibans qui remettent leur position militaire.
Oui.
Ça aura des conséquences, cela, sur la suite de l'histoire.
Il y aura beaucoup d'ambiguïté sur ça. Oui. Bon, quand Karzai conquiert, entre guillemets, le sud de l'Afghanistan vers Kandahar, donc à la fin 2001, avant d'être nommé choisi, parce qu'il est quand même choisi par la conférence de Bonn.
Alors, ouais, vous nous expliquez dans quelles circonstances il prend la tête de l'Afghanistan aussi. Hein,
voilà, c'est important. Il est choisi.
Bon, alors... Et je vous laisse évoquer d'abord cet épisode. Ouais. Donc de la de l'amnistie envers les talibans pardon, et des conséquences de
Alors en fait, c'est surtout la volonté de Karzaï, hein, c'est sa méthode. Bon, Karzaï est pachtoun. Karzaï, certes, s'oppose aux talibans, mais enfin, en 80, il a été vice-ministre des Affaires étrangères. Bon, après, il s'est séparé. Mais quand il prend pied au sud de l'Afghanistan, il a une méthode. Il y a une méthode qui ne plaît pas aux Américains. C'est une méthode qui est fondée sur la conciliation et le pardon. Donc, il discute avec les chefs tribaux pour les convaincre de quitter les talibans. Il marque sa réticence face aux frappes aériennes. Ça, ce serait une constante. Les frappes aériennes américaines qui... Bah, les fameux dommages collatéraux, mais il y en a beaucoup avec les Américains, des dommages collatéraux. Il y en a beaucoup trop, même. Bon. Et ce sera également, on le verra un petit peu tout à l'heure, une remise en question en 2009, pendant le fameux surge américain, une remise en question de ces frappes aériennes. Bon, et c'est là où on verra que la méthode de guerre américaine à cette époque-là ne peut pas fonctionner sans appui aérien.
Pardonnez-moi, je fais juste une aparté, vous évoquez ça, vous en revenez sur, sur ce problème dans votre livre « Les guerres d'Afghanistan » aux éditions Perrin, vous revenez là-dessus à plusieurs reprises, c'est que finalement les Américains finissent par être haïs. Ils sont très peu nombreux au début, en 2002, hein, ils sont quelques centaines, quelques milliers, mais ils sont progressivement haïs, justement, notamment pour les conséquences de ces frappes aériennes. Ce que ne partage pas Karzaï, vous nous expliquez, mais pourtant, sans ces frappes aériennes, les talibans n'auraient pas été renversés.
Oui.
Alors, c'est un peu à double tranchant, cette affaire.
Alors, en fait, les frappes aériennes, au début de l'intervention, de la présence de la présidence de Karzaï, bon, les Américains sont à faible effectif hein, pour contrôler cet énorme espace afghan. Et ils font la chasse aux talibans. Ils font la chasse aux talibans parce qu'eux, ils assimilent Al-Qaïda aux talibans. Alors après, les commentateurs, donc après 2021, dans les causes de l'échec du pouvoir, disons, proche des Occidentaux, c'est difficile à dire, à exprimer, ça a été justement le rejet des talibans. Voilà. Enfin bon, difficile de demander à un Américain de dire qu'il faut intégrer les talibans dans les négociations, potentiellement dans le gouvernement, avec un partage éventuel de pouvoir, avec les vaincus. Hein, les Américains, regardez, le président Trump a réutilisé ces termes de unconditional surrender, là, de reddition sans condition. On parle de reddition sans condition. C'est peu courant, ça, en fait, hein, dans les politiques militaires, la reddition sans condition, c'est... vous êtes vaincu, vous n'avez plus aucun droit, vous n'avez pas le droit à la parole, vous n'existez pas, vous avez perdu, c'est terminé. Et donc ça, c'est le discours que les Américains tiennent tout au début, 2002-2005, de ce calme précaire en Afghanistan. Mais bon, il y a un certain nombre de mouvements, parce que comme les talibans n'ont pas été totalement anéantis, bon, un certain nombre abandonnent la lutte, et puis on a une réinstallation d'un nouveau pouvoir. Alors avec une conception occidentale, c'est-à-dire que les chefs de guerre. Alors, les chefs de guerre sont ONI. Alors, les chefs de guerre, effectivement, ils ont amené l'arrivée des talibans. Mais enfin, les chefs de guerre, j'ai envie de dire, c'est ceux qui ont permis la victoire contre les talibans. Mais le concept occidental, c'est de supprimer les chefs de guerre pour faire une armée nationale. Alors, le problème, c'est que avant de créer une armée nationale, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de chef de guerre, il n'y a plus d'armée nationale, il n'y a pas de police.
Alors, les chefs de guerre sont mis à l'écart. Comment
ça se passe ? Les chefs de guerre sont mis à l'écart.
Mais comment sont-ils mis à l'écart ?
Alors, un certain nombre.
Parce que les chefs de guerre, ce sont. Qui sont-ils ?
Ismail Khan, par exemple, le maréchal Fahim, ils ont des postes gouvernementaux.
Oui, mais ce sont des chefs de guerre d'armée ethnique, en quelque sorte, de clan.
Oui.
Hein, c'est ça. Ils s'appuient sur leur propre clan, sur leur zone. C'est toute cette alliance qui compose l'alliance du Nord, en quelque sorte. Mais comment les mettons ? Vous expliquez qu'au début, ils appartiennent au gouvernement, mais comment vont-ils être mis à l'écart ?
À l'usure. À l'usure. Alors d'abord, bon, pour avoir les postes gouvernementaux, leurs forces sont dissoutes. C'est tout un processus qui s'appelle DDR, hein, désarmement, réintégration. La deuxième fois quand je viens, c'est en 2004. Alors je vois tout ce processus. Alors les milices des chefs de guerre, ça représentait quand même énormément de monde, hein, des dizaines de milliers de personnels, rendent leur armement. Rendre les chars, rendre l'artillerie, rendre l'armement individuel pour que ça passe dans les mains gouvernementales. Mais le problème, c'est que la création d'une armée nationale afghane, d'une police afghane, gouvernementale, ça met beaucoup de temps. Les moyens, il y a peu de moyens qui sont consacrés au début, peu de moyens financiers. Il y a quelques politiques. Alors, il y a une hésitation, parce qu'en fait, les Américains se retrouvent avec une victoire rapide. Mais ils passent sur l'Irak. Il ne faut jamais oublier ça. Ils passent sur l'intervention en Irak. Alors, en 2003, l'intervention en Irak, mais elle est préparée avant.
Oui.
Les efforts sont préparés avant. Le général Tommy Franks, qui commande CENTCOM, le Central Command, ce commandement américain, sous ses états-majors, leur attention est détournée vers l'Irak. Ils ne s'occupent plus de l'Afghanistan. Puis, à la limite, le sentiment qu'il y a, c'est qu'on a gagné. Bon, puis voilà. Alors, il y a quelques efforts. L'ONU s'en mêle. Il y a une mission de l'ONU qui est créée. Un certain nombre de budgets sont créés. Il y a deux missions. Alors, il y a une mission américaine. Disons contre-terrorisme, hein, qui continue à chasser le Taliban et Al-Qaïda, puisque Ben Laden a survécu. Hein, il a, entre guillemets, il s'est échappé dans l'opération de début 2002, l'opération Anaconda dans les fameuses montagnes de Tora Bora, mais qui d'ailleurs ne sont pas très loin du Pakistan. Ouais, on sait qu'il s'est réfugié donc au Pakistan, soutenu par les Pakistanais, puisqu'il est tué seulement en 2011.
Il y a une complicité pakistanaise
totale.
Dans le fait que donc Ben Laden ait pu s'enfuir, quitter Tora Bora et s'enfuir et passer au...
Bien sûr.
Il savait qu'il se trouvait donc, dans cette ville où les Américains sont allés le retrouver quelques années plus tard.
Oui. Oui.
Il y a un double jeu inimaginable. Pour un occidental, c'est très difficile de comprendre double jeu pakistanais d'exfiltration de l'ennemi, vraiment de l'ennemi public numéro un des Américains. Sans doute les Américains savaient-ils que c'était le Pakistanais qui l'avait exfiltré. On ne comprend pas la mansuétude américaine envers le Pakistan.
Bah, ils sont obligés de composer avec le Pakistan.
Oui.
Ils ont acheté en fait la coopération pakistanaise. Alors, il y a eu des menaces. Hein. Il y a eu, je ne sais plus quel ministre américain qui est allé voir Musharraf tout au début, après septembre 2001, en octobre. Vous êtes nos alliés ou on vous met une bombe atomique. Enfin bon, la menace à l'américaine. Alors Musharraf a été obligé de composer en disant... Et puis surtout, l'armée pakistanaise est financée, est énormément aidée financièrement par les Américains.
Mmh.
À un moment, il y avait même... Et donc les Pakistanais ont toujours joué double jeu. Bien sûr, ils accueillent Ben Laden, mais ils accueillent aussi plein de chefs talibans. Alors, quand il y aura trop d'attaques des talibans contre les Américains, bon, les Américains vont bien sûr... s'énerver, entre guillemets, et donc les Pakistanais vont arrêter des chefs talibans. Ils les garderont au Pakistan, ils les garderont au chaud au Pakistan. Les Américains vont lancer, en particulier sous la période Obama, énormément d'attaques de drones sur le Pakistan contre des bases. Ça créera beaucoup d'incidents. Il y aura des fermetures. Les lignes de ravitaillement de la force, hein, la Force internationale d'assistance et de sécurité, la FIAS, ou l'ISAF, comme on disait, passent par le Pakistan. Les lignes de communication terrestre passe par le Pakistan. Et c'est là aussi où, au niveau géopolitique, il y a une énorme ambiguïté, c'est que les Russes ont proposé leur aide, les pays d'Asie centrale proposent globalement leur aide, et quand il y a des difficultés, et ce sont aussi les talibans pakistanais qui attaquent les lignes de communication. Alors, les lignes de communication sont des camions, hein. Ce sont des camions, et des camions qui sont pillés. Hein, faut pas rêver, il y a du matériel qui arrive... pour les forces de la FIAS, de l'ISAF, il y a énormément de matériel qui est pillé. Il ne faut pas être dupe. Hein. Quand on va à Kaboul, les magasins sont pleins de matériel américain. Hein, ça va des treillis, des cantines en plastique, enfin que du matériel moderne américain que vous pouvez acheter. Si vous ne pouvez pas l'acheter au fameux PX américain, vous savez, c'est quand les Américains arrivent quelque part, ils installent des grandes bases et puis vous avez des magasins. Hein. Parce qu'en fait, l'idée est de recréer pour les Américains l'univers dans lequel ils vivent aux États-Unis. Un univers de confort, un univers de loisirs. Alors, vous avez des salles de musculation gigantesques. Vous avez...
Vous avez vécu ça.
Vous avez des Burger King. Et puis, vous avez des magasins de vêtements qui vous servent absolument à rien sur place, mais qui sont largement hors taxes. Alors, l'Américain moyen achète... Bon, c'est un loisir également. Faut pas être dupe de ça. Mais donc, de ce matériel civil ou semi-militaire arrive par camion et une grande partie est pillée. Et vous le retrouvez...
Pillé par qui ?
Par les Afghans, par les talibans pakistanais. Et puis ensuite, même quand ces camions, ces convois traversent l'Afghanistan, alors c'est là où il y aurait toute une ambiguïté. C'est que les Américains mettent énormément d'argent en Afghanistan. Donc ça nourrit la corruption. De l'argent est donné, d'ailleurs, pour permettre le passage en sécurité de ces convois. C'est-à-dire qu'on achète les chefs talibans locaux ou les pillards locaux pour laisser passer du matériel et des camions. Donc en fait, il y a une distribution massive de l'argent américain en Afghanistan. Ça aussi, c'est une cause de l'échec américain en Afghanistan, c'est qu'en fait, il y a un développement de la corruption. Il n'y a pas de fiabilité dans toutes les installations politiques qui sont mises en place, dirigées par, par Kaboul. Il y a des conflits d'intérêts, des alliances familiales. Karzai, du côté de Kandahar, va soutenir son frère. On est dans le trafic de drogue permanent. Il n'y a pas d'éradication du pavot pendant toute la présence américaine. L'ONU a une mission, mais enfin, il ne se passe rien. Il ne faut pas être dupe.
Comment t'expliquer que cette corruption endémique appartient-elle à la culture locale ? On est frappé par les descriptions que vous en faites, Général Sidos, dans votre livre « Les guerres d'Afghanistan » aux éditions Perrin, donc pour la partie américaine. On voit des personnels placés du gouvernement donc afghan, sous Karzai, et après, qui vendent même du matériel, qui vendent du matériel aux talibans, oui. Par exemple. C'est assez effrayant. Comment t'expliquer cette corruption endémique ? Est-ce qu'on a réellement essayé de lutter contre, ou c'était une mission impossible, parce que ça appartient finalement à la culture gouvernementale locale ?
Bah, en fait, oui, ça appartient à la culture locale. On l'avait vu pour la première insurrection en 1842, le soulèvement afghan contre les Britanniques, c'est parce que les Britanniques ne payent plus.
Ne payaient plus.
Ouais, c'est plus vraiment, les tribus.
On est vraiment dans la même...
Voilà. Hein, bon, ouais. Et donc là, on est dans la même situation. Alors, ça surprend toujours, bien sûr. Alors, on sait que les talibans imposent un régime humain et social particulièrement rigoureux. Mais l'autre aspect de cette imposition de la charia, bah, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, globalement, il n'y a pas de... Enfin, y en a...
Les talibans sont moins corrompus ?
Nettement moins corrompus, oui.
C'est dû à quoi ? Justement, à leur pratique religieuse ?
Oui, c'est un mouvement fondamentalement religieux, donc forcément, ça s'appuie sur une éthique, sur un respect de principe. Alors après, il y a plein de milliards de défauts qui ne nous correspondent pas.
Oui. Alors, Général Sidos, revenons à la situation, si vous voulez bien. Donc, en 2002, fin 2002... Et les talibans ont bénéficié d'amnistie, ils ont pu se retirer dans leur propre zone, et vous écrivez à cet égard, c'est que ni Karzai ni les Américains ne comprennent qu'en réalité les talibans se retirent pour attendre de meilleures occasions. Leurs forces se replient dans des régions comme Tora Bora et la vallée de Charikot. Quels effectifs sont indemnes, Général Sidos ?
Les talibans n'ont jamais eu des effectifs gigantesques même.
Oui.
Quand on prend même les effectifs à la fin de la guerre en 2021, les forces gouvernementales, normalement, ont plus d'effectifs que les talibans. Ils ont plus de personnel que les talibans, mais 4, 5 fois, 10 fois plus. Mais c'est la qualité du combattant, c'est la motivation qui est différente. Donc à partir de là, c'est tout doucement, ils vont grignoter. On peut le voir, il y a plusieurs phases dans cette...
Oui, alors nous avons parlé effectivement de ces différentes phases. C'est Tora Bora, Charikot, c'est quoi ? C'est le nord ?
Tora Bora, non, c'est une zone très montagneuse.
En frontière...
Sud-est de l'Afghanistan.
Ça, c'est la zone Pachtoune ?
C'est une zone Pachtoune, qui est frontalière du Pakistan.
C'est vraiment le cœur taliban ?
Le cœur taliban est plutôt vers Kandahar.
Vers Kandahar, qui est lui qui est plus au centre, hein.
Kandahar, c'est le sud-ouest.
C'est le sud-ouest.
Donc, c'est l'ouest.
Bon, de toute façon, c'est grand. L'Afghanistan, voilà. Les Pachtounes occupent
une énorme. On trouve même des Pachtounes au nord. À partir de 2015, l'insurrection talibane va se concentrer d'abord au sud, dans les zones de naissance des talibans. Alors, ça prendra du temps. Hein. Ça sera très long. Avec beaucoup. Tactiquement, ils vont. Pendant tout ce qu'on a en mémoire. Pendant les années 2008, 2009, 2012, jusqu'à 2014, la fin de la mission combattante de l'ISAF, de l'OTAN, il y aura beaucoup d'offensives. Les grosses premières offensives, c'est en 2006, mais il y en a déjà avant. Avant, il y a déjà des combats. Et c'est là où les Américains interviennent pour réduire ces quelques combattants talibans et bombardent. Voilà, les bombardes, et là, vous avez les dommages collatéraux, et c'est là où Karzai proteste.
Oui, alors, justement, ça veut dire que les talibans sont défaits, mais pas vaincus, mais pas détruits.
Non,
ils sont toujours au cœur de leur zone, en réfugiés sans doute dans la montagne. Ils sont nombreux, nous expliquez-vous quand même, et ils attendent des temps meilleurs, ils se refont en quelque sorte. Donc, nous allons dérouler avec vous il y a un calme précaire, hein, vous le décrivez, il y a un calme précaire en gros entre 2002 et 2005, même si les combats continuent et justement les raids et les bombardements américains contre le repli taliban, le raid du taliban en quelque sorte, provoquera cette haine farouche des populations envers les troupes américaines. Nous n'avons pas évoqué la manière dont les Américains, vous nous avez expliqué quand même que les Américains veulent bâtir une armée et une police afghane. Vous allez bien sûr nous expliquer la manière dont ils procèdent et puis le succès ou l'échec de cette volonté. Vous n'avez pas évoqué comment les Américains mettent en place un nouveau gouvernement et comment, dans quelles circonstances, Karzai en prend la tête hein.
Alors Karzai est choisi. Bon, c'est un homme politique qui est connu. Il est choisi. Donc
il est choisi par les Américains.
Il est choisi par la conférence de Bonn, donc par les Américains. Enfin, oui. Alors conférence de Bonn, il y a des Européens. D'accord.
Pourquoi choisit-il Karzai? Pour quelle raison?
Parce qu'il est pachtoun. Déjà, parce que les Américains ont des sympathies pour les pachtouns. C'est très clair. Ah,
pour quelle raison?
Parce qu'ils
sont majoritaires, non?
Parce que c'est proche du Pakistan aussi, il y a cette idée, et c'est une influence proche du Pakistan. Ils avaient soutenu les Moudjahidines Pashtuns pendant la guerre contre les Soviétiques. Hein, ils ont beaucoup traîné à soutenir Massoud. Ils sont vers ce camp-là, en fait, hein, tout simplement, qui correspond à leurs intérêts, et puis qui est lié, oui, intrinsèquement. Alors, les analyses politiques qui sont fournies par les ambassades, en particulier les ambassades américaines et la CIA au Pakistan, ont toujours choisi le camp Pashtun, puisqu'il était proche, voilà, alors je ne sais pas comment ils vont expliquer aujourd'hui la situation, mais proche des Pakistanais, que les Américains ont toujours eu intérêt à maintenir un pouvoir pakistanais fiable.
Il y a une élection pour formaliser
Alors oui, il y a des élections qui vont. Alors il y a des Loya Jirga. Il y a de l'enthousiasme pour Karzai. Hein. Il y a de l'enthousiasme populaire en Afghanistan pour Karzai. Oui.
Pour quelle raison?
Parce que il est très représentatif de cet héritage. Alors il a un héritage familial qui vient des rois afghans de la famille de. Cette famille Durrani.
Il est lié à cette famille.
Il est lié à la famille, voilà. Donc ça joue également, bien évidemment, ça joue. Il a ce prestige de la noblesse, disons, traditionnelle afghane. Donc ça joue énormément. Donc il y a du Léagien. Et puis les Occidentaux, bien sûr, organisent des élections. Alors, toute une série d'élections. Alors les premières élections se déroulent bien. Bon, il y a de la concurrence. Mais bon. Les élections. Alors les Américains soutiennent. Vont interférer dans les élections, ce qui va créer pas mal de dissensions. Et puis après, ils veulent intervenir aussi un peu dans le résultat des élections. Karzai est élu, il est élu deux fois. Il a droit à deux mandats. Et puis après, donc, ce sera Ashraf Ghani à partir de 2009, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et donc, l'OTAN va prendre en charge la mission progressivement, l'OTAN qui se cherche une mission. Une existence, une raison d'exister après la chute de l'URSS, va prendre la main sur
Sur les Américains qui lui tendent la main.
Oui.
C'est leur intérêt parce qu'ils sont très pris en Irak, ils cherchent peut-être à.
Ils cherchent un petit peu à déléguer. Effectivement, ils chercheront toujours à déléguer leur présence en Afghanistan. Obama, quand il fait le surge, avec beaucoup de. Ce qu'on appelle le surge, c'est un renforcement.
À partir de 2011, c'est ça ?
2009.
2009, oui.
Mais ça dure 2 ans, effectivement, 2-3 ans, pas plus. Et il cherchera toujours à faire porter une part du fardeau aux alliés occidentaux, ce qui sera le cas d'ailleurs. Hein. En particulier, les Britanniques, qui seront toujours dans le sud, hein, dans la province du Helmand, subiront beaucoup de pertes.
C'est une zone pachtoune aussi.
Il y a beaucoup de combats. Alors, ce sont des combats, c'est infini le nombre de combats qui sont menés en Afghanistan. Alors, moi, j'en ai. Résumer un certain nombre, mais c'est infini les combats qui sont menés.
Vous évoquez des combats très impressionnants. Ce que je vous propose justement, si vous voulez bien, Général Sidos, c'est, dans votre livre, c'est parfait, c'est très clair. Quand vous présentez cette guerre, vous la présentez par phase. C'est-à-dire qu'on a vu cette phase un peu de tranquillité, entre guillemets, calme précaire, 2002-2005, où les talibans se reforment, se refont. Et puis après, ils reprennent l'offensive. Alors, bien qu'il y ait toujours des combats, en effet, ça n'a jamais
été. Il y a des petits combats, je dirais. Oui. Et la résurgence des talibans, c'est vraiment 2006.
Alors, je vous propose effectivement que vous nous racontiez, justement, c'est la reprise de cette guerre, sous forme d'une véritable guerre, par cette première grande offensive taliban, des talibans qui se reconstituaient, donc 4 années après leur défaite. Je vous propose de reprendre de là et que vous nous décriviez ces phases et puis les combats types et puis la manière dont les Américains et puis derrière l'OTAN réagit.
pardon. Oui, alors en fait, bon, ça commence dès 2002, 2003 même, Et puis, ben, il progresse tout doucement. Il progresse parce que d'abord, il n'y a pas énormément d'opposition. Et alors, il progresse dans le sud. Et donc, dans la province, les provinces du Helmand et de Kandahar, qui sont les provinces sud-ouest de l'Afghanistan, frontalière du Pakistan. Ça, il faut être très clair là-dessus également. Et en 2005, malgré tout, l'OTAN effectue un renforcement. Mais ce ne sont pas des effectifs énormes, ce sont des effectifs totalement insuffisants. Il y a en 2005, en fin 2005, en décembre 2005, vous avez à peu près 10 000 soldats de l'ISAF et 18 000 soldats américains. Les Canadiens envoient 2 000 hommes à Kandahar, les Britanniques 3 000 dans le Helmand, des Hollandais, des Australiens. Les Hollandais, 1 300 hommes quand même pour un petit pays comme ça. C'est le Danemark qui a eu proportionnellement le plus de tués. C'est surprenant. Vous savez, quand le Donald Trump récemment a dit qu'il n'y avait que des tués américains en Afghanistan, un certain nombre de pays européens ont protesté, et je crois que ce sont les Danois qui ont eu le plus de tués. Les Roumains, fort sympathiques, pauvres, mais fort sympathiques. Ça aussi, c'est dans ces conflits, ce qui est toujours intéressant, c'est de côtoyer les armées étrangères et de voir comment elles se comportent. Moi, je me rappelle des Roumains en particulier. C'était très surprenant. Les Roumains étaient parmi les plus sympathiques. Parce qu'on est proches, hein, voyez, il y a des choses qu'on découvre comme ça. Et puis, les Britanniques, quand vous vouliez aller voir un match de rugby à l'état-major à Kaboul, avec les Britanniques, fallait pas trop rester quand il y avait un match France, Écosse, Irlande, etc. Hein, parce que là, on a un petit peu affaire à des hooligans. Hein, donc voilà. Et puis vous avez beau être français, il n'y a pas de camaraderie. Non, vous êtes l'ennemi. Quoi. C'est très, très désagréable. Je dirais désagréable. Mais bon, par contre, voilà, je cite pour les Roumains, c'est toujours assez intéressant.
Mais donc, les Roumains étaient engagés au combat ?
Oui.
Pareillement. Alors, justement, cette phase de reprise des combats, vous en décrivez certains dans votre livre « Général Sidos, les guerres d'Afghanistan » aux éditions Perrin. Et vous décrivez, par exemple, les attaques de postes avancés.
Oui.
Ce sont des combats incroyables. C'est totalement épique. On n'imagine pas ça. Vous y voyez, par exemple, en août 2007, le poste avancé de Rush House, où il y a 11 Américains tués sur 25. Alors, pouvez-vous, pour que nous comprenions bien, effectivement, cette guerre et ses engagements de part et d'autre, je vous propose d'en décrire un ou deux, par exemple.
Oui, alors il y a deux grandes zones de combat à cette époque-là. Il y a la zone sud-ouest et la zone est. Alors, la zone, au niveau paysage, la zone sud-ouest, c'est des paysages de désert. Hein. C'est des grands, là, c'est le sable, l'image que l'on a. Et par exemple, c'est au début de 2006 qu'il y a une insurrection qui est préparée depuis 3 ans, qui est lancée donc dans ces provinces de Helmand et de Kandahar. Et là, il y a les talibans aux 4000 combattants à peu près. Vous voyez, ça, c'est quand même un effectif conséquent pour un effectif global de 10 000 talibans pour tout le pays. Ce qui n'est pas gigantesque, hein, c'est rien. Et leur armement est très léger. Bon. Et là, donc, il y a un certain nombre d'attaques contre des postes. Alors, les Anglais aussi s'étaient mis en tête de s'installer dans des postes... Alors, c'est l'éternel problème dans la contre-insurrection, dans la présence étrangère. Soit on a des grosses bases regroupées, soit on se disperse. Alors, les Anglais avaient choisi la dispersion. Ils ont choisi et ça a été une énorme vulnérabilité. Il y a même eu, à un moment, une négociation. Et les Anglais ont négocié avec les talibans pour évacuer. Parce qu'en fait, des opérations sont menées, mais avec des restrictions. Les gouvernements, qu'ils soient français d'ailleurs ou britanniques, veulent éviter les pertes. Alors, bon, les Anglais en auront beaucoup quand même, mais des pertes symboliques. Par exemple, les Anglais refusent, le gouvernement anglais refuse qu'il y ait un gros hélicoptère de transport qui s'appelle le Chinook, soit abattu. Ce qui fait que le commandement britannique ne peut pas utiliser les moyens pour les opérations. Il ne peut pas. Donc, ça l'affaiblit pour mener tel combat, ne peut pas renforcer un poste, donc il est obligé de négocier. Et il y a une phase, alors ça a été la honte, enfin c'est une réalité, c'était après masqué, les Anglais évacuent après avoir négocié avec les talibans. Bon. Ça, c'est la phase de combat, les formes de combat qu'il y a au sud-sud-ouest. Et alors, il y a une grande phase de combat à l'est, dans les provinces du Kunar et du Nouristan, alors qui sont des provinces montagneuses. Là, on a des paysages gigantesques de montagnes boisées. Où sont les Américains. Et là, en fait, c'est plus des populations locales, pas forcément des talibans, ce sont des populations locales. Alors, les Américains ont dispersé plein de postes, ils essayent, on impose. En fait, la politique qui est menée, c'est entre guillemets, pour simplifier, d'occidentaliser la société afghane. Alors, on estime que pour pacifier la société, bah, il faut lui apporter, entre guillemets, les bienfaits de la civilisation. Un système politique bon, qui va rapidement s'adapter aux réalités locales, mais surtout, avec la meilleure volonté du monde, ce qu'on appelle des PRT, des Provincial Reconstruction Team, des équipes de reconstruction provinciale. Alors là, c'est totalement économique. C'est de la reconstruction, construction de routes, construction d'écoles, éducation, voilà. Alors ça, c'est tout le, entre guillemets, ce que je dirais, les bienfaits de la présence occidentale. Alors c'est plus ou moins accepté. Mais c'est soutenu également par un certain nombre de postes militaires. Alors les postes militaires dans la zone du Kunar et Nounouristan sont également faits pour empêcher les infiltrations qui viennent du Pakistan. Donc les Américains implantent un certain nombre de postes. Alors des postes avec des petits effectifs. Et souvent avec des Afghans de l'armée afghane. Alors tous ces postes sont ravitaillés par hélicoptère. Les moyens américains le permettent, ou par par camions sur des pistes difficiles. Alors il y a eu des grosses batailles, des gros combats. Alors c'est très fort à la mot en fait. Hein, c'est très western. Hein, c'est donner l'image, c'est un peu ça, c'est-à-dire des postes isolés qui se font attaquer par les Indiens, c'est un peu ça. Et là, les soldats américains subissent des pertes très lourdes, des embuscades très lourdes. Vous avez quelquefois la moitié de l'effectif américain, alors c'est 10 soldats, c'est 15 soldats qui sont tués, plus tous les blessés. Et en fait, vous avez des noms de vallées, par exemple la vallée de Korangal, qui devient un abcès sanglant. Et les Américains vont mettre énormément de temps à évacuer. Ça sera évacué qu'en 2010. Parce que là, c'est toujours la même idée. C'est on abandonne, on cède. On cède le terrain. Et puis après, on ne peut plus contrôler les axes d'infiltration talibans. Alors, axes d'infiltration talibans qui vont aller jusqu'à la fameuse embuscade française d'Ouzbin.
Alors, Général Sido, cette phase que vous décrivez, donc, après donc, l'année 2006, où les talibans donc, reprennent le combat, où aussi, vous nous expliquez, des locaux aussi se battent contre les implantations américaines dans des postes, les Anglais, les Britanniques, donc les Américains, progressivement évacuent ces vallées où se trouvent donc des postes isolés, oui, parce qu'ils n'arrivent pas. Alors, on a du mal à comprendre, ça c'est une phase sans doute importante qui va permettre aux talibans de remettre en quelque sorte la marche en avant et de recontrôler progressivement le territoire qu'ils ont perdu. On a du mal à comprendre parce que les talibans, vous nous l'avez dit, c'est quelques milliers d'hommes. Alors certes, ils ont le moral avec eux, ils sont convaincus, ils sont courageux, déterminés, mais ils sont mal armés en face. Il y a les troupes de l'OTAN, de l'ISAF, donc c'est quand même près plus de 100 000 hommes, avec un armement lourd, avec de l'aviation en appui. Et puis il y a cette armée afghane quand même qui a été formée. Et il y a quand même 18 000 forces spéciales afghanes de haute qualité, de grande valeur, écrivez-vous dans votre livre. Et puis il y a à peu près 200-300 000 hommes, armées et police confondues. Et c'est cette poignée de talibans... Qui va remporter le combat. C'est très difficile
parce
à comprendre.
Grignote, en fait.
Alors nous allons faire une pause parce que nous devons écouter un message de la radio suivi de quelques mesures de Jean-Sébastien Bach, le premier mouvement du concerto pour violon la mineur BWV 1041. Et nous reprenons cette discussion pour nous amener jusqu'au départ des Américains et bien sûr la chute de Kaboul en essayant de comprendre les raisons profondes finalement de l'échec américain.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir le général Philippe Sidos à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Perrin, coédité avec le ministère des Armées, les guerres d'Afghanistan. Nous évoquons la guerre américaine depuis l'engagement de 2001. Nous en sommes rendus à peu près dans les années 2010. Les talibans sont de nouveau à l'offensive depuis 2006 avec des succès certains. Nous allons voir la manière dont les Américains naturellement réagissent à cette offensive. Mais il y a cette question qui demeure, comment expliquer que quelques milliers de talibans mal armés, des armements légers, aient réussi à vaincre, à faire partir. Et ce n'est pas le courage des soldats qui est en cause, hein, c'est l'armée américaine et les armées alliées, et puis à vaincre définitivement par la chute de Kaboul, cette armée afghane quand même, qui faisait plus de 200 000 personnes, qui était certainement bien plus lourdement armée que ces quelques milliers talibans soutenus aussi par quelques Al-Qaïda. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, et nous comptons bien sur le général Sidos pour nous expliquer ça dans cette dernière petite demi-heure d'émission. Nous avons un message d'un auditeur, je vous le lis, mon général, au-delà des conflits régionaux très probablement hérités de la période coloniale britannique, les guerres américaines ne sont-elles pas la mise en œuvre de la stratégie définie par Mahan dès 1900 qui consistait à affaiblir et isoler la Russie par des conflits chroniques sur sa périphérie, donc en Asie centrale.
Oui, il y a eu ça. Mais dans le cas précis, on le retrouve un petit peu. La coopération russe n'est pas acceptée. Je parlais tout à l'heure des lignes de communication. Et quand il y a beaucoup de problèmes avec les lignes de communication qui passent par le Pakistan, l'OTAN cherche à créer des lignes de communication au nord, en passant par la Russie et les pays d'Asie centrale. Et ça n'y aura jamais vraiment un énorme flux. Il n'y aura jamais la volonté de l'OTAN, donc des Américains, de reposer complètement l'approvisionnement par les lignes nord. Mais les Russes n'y auraient vu aucun problème. Les Russes, eux, n'ont aucun état d'âme pour que les talibans soient vaincus. Alors ils vont évoluer, les Russes. Ils vont évoluer devant la situation, devant la réalité, devant la réalité de la puissance et de la résilience et de l'existence des talibans. Et c'est eux aussi qui vont engager des négociations pendant également la présence américaine avec les talibans. Mais ça, c'est le vieil aspect des Russes qui négocient énormément, qui n'ont pas cette obsession de diaboliser l'adversaire. Bon, ça c'est un aspect.
Alors nous écoutons pour
la suite de la guerre, la grande période de la guerre.
De la guerre.
Alors moi, c'est celle que j'ai vécue aussi directement quand j'étais à l'OTAN, à Brunsum. C'est la période du surge. Alors, on en a un moment parlé parce que c'est un sursaut.
Le sursaut, c'est ça.
C'est un
ça,
sursaut militaire, économique, politique.
Et américain.
Américain.
Oui, américain,
américain et otanien, bien sûr. Alors, et c'est le président Obama. Parce que quand le président Obama arrive au pouvoir, bon, il y a une situation...
Donc on est en 2009.
La situation s'est dégradée depuis des années. Il y a même eu des déclarations pour dire qu'on était prêt de perdre l'Afghanistan. Hein. Les Américains pensaient perdre l'Afghanistan. Le président Obama arrive, les généraux américains veulent réussir. La situation en Irak s'est améliorée. La situation en Irak s'améliore et la situation se dégrade en Afghanistan. Donc les Américains peuvent faire un effort sur l'Afghanistan. Donc il y a un effort qui va être fait sur l'Afghanistan avec des généraux américains qui vont marquer la guerre. Mais qui vont discréditer une doctrine. Les Américains ont essayé, le général Petraeus en particulier, sont des généraux américains, des lieutenants en fait, qui font West Point après la guerre du Vietnam, après l'énorme traumatisme de la guerre du Vietnam, et qui réfléchissent énormément et qui veulent ne plus perdre les guerres, toutes ces guerres d'insurrection, ces guerres régionales qu'ils ont menées. Donc ils mettent au point une doctrine qui s'appelle la doctrine de contre-insurrection. Alors, on s'inspire, ou on veut bien s'inspirer d'auteurs français. Alors, il y a un auteur français totalement inconnu en France, qui a son heure de gloire, qui s'appelle Galoula, parce qu'il avait écrit des documents quand il avait été récupéré après la guerre d'Algérie aux États-Unis. Trinquier, Lyautey, et dans le Surge, le fameux Surge de 2009. Alors, le Surge est faussé parce que les généraux américains demandent des effectifs, mais ne les obtiennent pas. Parce que Obama est très circonspect. Il savait que cette affaire afghane. En fait, comme tous les dirigeants américains et même les politiques, on se demande, faut être honnête, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? N'importe qui a dessous de conscience comprend que c'est un bourbier. Hein, historiquement, tout le monde le voit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va imposer la démocratie, on va imposer notre style avec des gens qui n'arrivent pas à une société afghane ou à un système politique qui n'arrive pas à produire de l'argent. Donc on injecte énormément d'argent pour tenir à bout de bras l'économie afghane, pour créer une armée afghane en matériel, en personnel, donc en recrutant énormément de personnel, en les payant, en les équipant. Et donc, ça va de pair avec ce fameux surge des opérations. Alors, le surge des opérations ne se passe pas aussi bien qu'on veut. Hein. On est toujours dans l'idée de gagner rapidement. Alors, le général McChrystal, très rapidement, fait effort dans la zone la plus dangereuse, qui est donc cette zone sud-ouest, Kandahar, Helmand. Mmh. Et ça dure, et ça dure, et ça dure.
Le cœur du pays taliban.
Hein. Le cœur. Mmh. Et on n'arrive pas à éliminer, ils n'arrivent pas. Tardivement, ils y arrivent, bien sûr, au bout de un an. Au bout d'un an.
Non, on a, premièrement, général Sidos, mais on a un peu l'impression qu'on est revenu de la situation de 2002, à peu près. C'est-à-dire que, effectivement, ce surge, hein, cette action, cet effort mis par les troupes américaines sur cette zone Pashtun-Taliban obtient des résultats tactiques,
oui.
Comme en 2002. À ce moment-là, on revient un peu à cette situation où les troupes talibans se réfugient en quelque sorte dans leur cœur régional et pour attendre des temps meilleurs, mais ils ne sont toujours pas défaits. On a l'impression qu'on revient un petit peu à la même situation.
Alors les talibans s'adaptent.
Ils s'adaptent
énormément, ils s'adaptent à tout. C'est-à-dire qu'ils vont profiter des moments, disons, de faiblesse pour attaquer, pour gagner du territoire, pour récupérer des volontaires avec eux. Et puis, quand la présence de l'OTAN ou américaine se fait trop forte, ils assument les combats. Alors après, on évolue dans les combats. Hein. Les talibans, quand ils peuvent affronter d'unités de combat face à une autre unité de combat, ils vont accepter le combat. Alors après, bien sûr, la puissance de feu américaine va les réduire. Alors quand ils auront perdu trop de monde, ils vont passer à une autre forme de combat. En particulier, ce qui va marquer l'Afghanistan, ce sont ce qu'on appelle les IED, les explosifs improvisés. Alors en fait, moi j'avais une caricature. Je disais, l'armée soviétique a été vaincue par des moudjahidines équipés par les Occidentaux, dont le Stinger, le fameux missile antiaérien. Les talibans, ils font la guerre avec des kalachnikovs rouillés, j'exagère un peu, mais quand même, et des engrais, c'est-à-dire des produits chimiques qui servent à produire des explosifs, des mines improvisées. On ne leur livre pas une mine industrielle, on leur livre... voilà.
Général Sidos, pourquoi les Américains, l'OTAN, n'arrivent pas, soutenu par l'armée afghane, et soutenu aussi par les forces spéciales afghanes dont vous décrivez la valeur dans votre livre. Pourquoi n'arrive-t-il pas, à les vaincre?
Parce que les effectifs se régénèrent constamment. C'est-à-dire que, alors il y a des pertes, il y a des pertes très sérieuses, des combats très sérieux, des pertes des talibans très sérieuses, et puis après ils arrêtent, ils font une pause, et ils reviennent. Alors vous avez cette première grosse offensive des talibans donc dans ces périodes 2009. Alors il y a le surge. Alors le surge fait beaucoup de mal aux talibans. Mais le surge, il est limité dans le temps. Le président Obama, dès le début, il dit « Moi, le surge, je le fais, mais en juillet 2011, j'ai réduit les effectifs. » Les talibans se disent «
Attendons deux ans. Alors, on fait le dos rond.
» On fait le dos rond, on attend. Mais ça paraît incroyable.
Et il l'annonce en plus officiellement.
Oui,
en effet.
Donc en fait, il coupe l'herbe sous le pied de McChrystal. Alors les généraux américains acceptent bien sûr de se battre. Et le général McChrystal... C'est là où on a toujours des semi-scandales. Le général McChrystal, tout le monde se rappelle, qu'il est bloqué à Paris en 2010 par l'éruption d'un volcan, je crois que c'était au Groenland. Enfin bon, il est bloqué à Paris et puis il répond à une interview d'un journaliste américain. Et on a été un certain nombre à penser qu'en fait, il s'était un peu sabordé. Pourquoi je dis ça? Parce que un de ses adjoints, le général Flynn, qui a été proche de Trump, en tout cas pour le premier mandat, était le général commandant le renseignement. Il fait un exposé à l'école de guerre à Paris, à l'époque où je suis cadre professeur. Alors, je connais bien l'Afghanistan, j'ai déjà beaucoup travaillé dessus. C'est assez intéressant parce que j'ai servi à l'OTAN déjà, donc je l'ai vécu tout ça longtemps. Et je vois bien, j'ai vu les difficultés quand vous êtes à l'état-major à Kaboul et à Brunsum. Vous voyez bien que ça passe pas. C'est dur, hein, les combats sont difficiles, il n'y a pas de résultat. Et là, le général, donc je saisis bien, et le général Fitt, pour moi, fait un exposé catastrophique de la situation, en disant exactement ça, ça bloque. On a beau mettre tous les efforts, ça bloque. On n'arrive pas à mettre en place une administration afghane, elle est corrompue, on n'arrive pas à réduire totalement les talibans, ça se régénère. Dès qu'on se retire, ils réapparaissent, etc. Enfin voilà, c'est très classique. Donc, le général McChrystal présente sa démission. Il est remplacé par le fameux général Petraeus, qui a effectivement eu des succès en Irak. Mais le général Petraeus, alors, le général Macristal avait réduit les frappes aériennes, avait réduit les appuis d'artillerie, les frappes aériennes, ce qui avait amené d'ailleurs un surcroît de pertes dans l'armée américaine. Le général Petraeus, à partir de là, on rentre dans une autre forme de guerre, c'est-à-dire la guerre classique à l'américaine, c'est-à-dire de l'infanterie de qualité, du contre-terrorisme, hein, ce qu'on appelle plus le contre-terrorisme, c'est-à-dire des vrais combats, on repère des bandes de talibans et on les écrase. Alors là, bon, on les écrase. Alors on les écrase là, on les écrase là, on les écrase là. Bon.
Mais puis ça, après, c'est quelle période, ça ?
Là, on est dans la période 2010-2011. Voilà. Et puis là, c'est la fin du surge 2011. C'est la fin du surge.
Annoncé par Obama.
Et puis, il le met en place. Hein, et on passe d'un effectif de 100 000 Américains qui va se réduire tout doucement, qui se réduit progressivement et assez rapidement, d'ailleurs. Et puis, y a toutes les grandes réunions de l'OTAN sont faites pour transmettre la responsabilité aux Afghans. Alors, l'idée des combats à mener, c'est de livrer au gouvernement afghan une situation gérable. C'est-à-dire, on poursuit les combats pour affaiblir les talibans à un niveau où l'armée afghane, qui est en constitution, où là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, beaucoup de recrutements pour recruter une police afghane et une armée afghane, pour livrer le retrait prévu en 2014, fin 2014, pour livrer une situation gérable, entre guillemets. Bon, donc tout se fait comme ça. Et là, donc, là, on a des généraux américains très efficaces, hein, avec des très grandes réussites. Et donc, après 2014, c'est la fin de la mission de combat. Nous, Français, on a quitté un petit peu avant. On devait quitter comme... Mais les Canadiens ont quitté même avant les Français. Et nous, on a quitté, en particulier après des gros incidents. Alors, c'est une nouvelle façon d'agir des talibans, parce qu'ils ont une énorme imagination pour lutter contre les forces occidentales. Alors, ce qu'on a appelé, qui a été psychologiquement et très dur, c'était ce qu'on appelait les « green on blue », c'est-à-dire des talibans ou alors des Afghans qui se retournent, qui sont intégrés à l'armée afghane et qui tuent des soldats occidentaux. Alors ça arrive dans les états-majors, on tue deux officiers américains là, et puis par exemple sur une base française, vous avez un Afghan qui prend une mitrailleuse et qui tire sur les Français. Vous avez de mémoire une dizaine de tués. Enfin. Et là ça choque énormément. Et quelqu'un comme le président Obama, Hollande, ne comprend pas la situation et dit que maintenant on arrête, c'est ingérable. On n'y arrive pas, ça fait quand même 10 ans qu'on est là, on s'en va. Et on retire le contingent français. Alors, toute une série de contingents s'en vont. Et il y a une nouvelle mission qui est mise en place, une mission de soutien à l'armée afghane, une mission de formation, à partir de 2015.
Et ça, les Américains aussi sont moteurs.
Totalement.
Dans cette nouvelle stratégie, oui, qui est de, cette fois-ci, d'avoir une armée afghane digne de ce nom, donc formée et équipée. Oui. Et les troupes américaines et de l'OTAN restent là en formation de soutien. Oui. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, 2015, il y a encore des troupes américaines au combat ou tout est en soutien ?
Alors, le soutien, il y a toujours un peu de combat.
Oui, toujours.
Alors,
oui.
Il y a
des forces spéciales.
Oui, il y a des forces spéciales, il y a des unités. Alors,
des avions.
Ça se passe bien quand l'armée afghane est soutenue par les Américains. Quand il y a des conseillers militaires américains, oui, quand il y a du combat avec les Américains. Alors, l'armée afghane, il y a les réalités afghanes. Hein. L'armée afghane, c'est pas... C'est même pas l'armée d'appelé français était troupe d'élite. C'était une extraordinaire armée par rapport à l'armée afghane. Corruption, non-paiement des salaires, troupes fantômes. C'est-à-dire là, un certain nombre de chefs afghans récupèrent l'argent pour eux et il n'y a pas de troupes qui se battent. Et par contre, alors il y a des forces spéciales. Les forces spéciales afghanes sont de très grande qualité et elles vont être usées dans un certain nombre de combats puisqu'ils vont servir un peu de pompiers. Ils vont intervenir dans un certain nombre de secteurs. Alors, toujours les combats qui sont au sud, dans les zones de Helmand et Kandahar, où là... Alors, les talibans, c'est un combat qui est très long hein, pour conquérir. Très, très long. Mais ils réduisent l'armée afghane, ils attaquent les postes. Alors, il y a les saisons de combat, et puis après, quand les phases d'hiver, une reconstitution. Mais à chaque fois, le gouvernement perd du terrain. Après, vous avez des chefs de guerre locaux, afghans, qui s'imposent, en particulier dans le sud, hein, du côté de Spinboldak, et qui sont très appréciés des Américains. Hein. Donc là, il y a une grosse coopération qui se fait, et il y a des résultats. Alors, des résultats d'une brutalité incroyable. C'est-à-dire que là, les troupes gouvernementales ou la police locale ne fait plus prisonniers. Hein. Parce qu'en plus, Karzai, il y a une politique de libération de prisonniers. Enfin, c'est très, très ambigu, tout ça. Et donc, on arrive à après 2015, et là, les talibans étendent leur combat. Ils étendent les combats vers le nord. Et donc, c'est là où on a des combats à Kunduz. La ville de Kunduz va tomber. Alors elle va être reconquise par les Américains et les troupes afghanes se battent bien quand elles sont bien commandées. Elles sont bien commandées par qui ? Par les Américains.
Alors c'est reconquis par les Américains avec des troupes américaines ou
alors il y a un peu de tout.
Oui.
Il y a des phases où vous aurez un peu de troupes américaines.
Celles qui restent.
Et celles qui restent, mais qui, les effectifs se réduisent vraiment.
Hein. Combien à peu près
On arrive à 15, 20 000 Américains,
ah oui,
pas plus,
vraiment du
voire 10 000 par moment.
Et ce sont des forces spéciales là,
alors il y a des forces spéciales, oui. Majoritairement, ça devient des forces spéciales. Alors il y a quelques unités de Marines, il y a des forces spéciales. Mais il reste toujours l'appui aérien américain.
Oui, c'est ça.
Il ne faut jamais l'oublier. Oui. L'appui aérien américain va agir jusqu'en 2021. Et là, bon, l'armée afghane, les troupes, en particulier les forces spéciales, les commandos afghans, se battent bien. Mais ils sont usés au bout d'un moment. Ils sont utilisés un peu partout, mais les effectifs disparaissent. Vous ne formez pas des bons soldats comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Et donc, il va arriver un moment où il n'y en aura plus assez. Et puis, les talibans grignotent, montent, progressent. La phase dernière... Alors, les négociations vont être ouvertes. Alors, les négociations, bien évidemment, c'est une porte ouverte à un renouvellement de la volonté offensive des talibans. Les talibans, bien évidemment... Trump, alors les négociations commencent sous Obama, mais elles se développent vraiment sous Trump. Trump veut vraiment abandonner l'Afghanistan, mais sans perdre la face. Et en 2019, il y a des négociations, les talibans profitent de ces négociations pour lancer des offensives. Là, Trump rompt les négociations, relance des attaques, renforce en effectif, en aviation même, hein, en moyens aériens de frappe, très sérieusement, et là, les talibans, ils reviennent rapidement après les négociations. L'accord de Doha est signé en tout début 2020.
Sans participation du gouvernement afghan.
Et le gouvernement afghan ne participe pas. Alors ça aussi, c'est... Pourquoi ? Les Américains savaient très bien que les Afghans étaient très réticents. Que le gouvernement du président Ghani, le deuxième président de la présence occidentale, tente lui aussi quand même. Non, lui aussi a des contacts avec les talibans. Il ne faut pas non plus croire qu'il n'y en a pas. Par exemple, il négocie des trêves avec les talibans pour que les talibans permettent que les électeurs, enfin tout au moins que les urnes soient remplies en sa faveur. Donc il y a aussi des accords.
Quels sont les termes de ces accords de Doha ?
Alors les accords, c'est c'était le but de guerre américain qui a toujours été là, mais ils ont été obligés de composer un petit peu avec. C'est que le territoire afghan ne serve plus de base pour des opérations terroristes internationales. Alors moi, je me permets de dire que, mis à part Al-Qaïda, les talibans n'ont jamais eu d'ambition extraterritoriale.
Donc pourquoi être resté 20 ans
Parce qu'on est dans l'illusion, parce qu'on est dans une mauvaise définition des objectifs de guerre.
Oui. Et Général Sidos, on arrive au terme de cette émission et au terme, en effet, de la présence américaine. Les Américains se retirent définitivement après ces accords de Doha. Ils auraient pu maintenir des troupes sur place.
Ils ont maintenu des troupes sur place.
Ils ont maintenu des troupes à Kaboul, c'est ça. Alors pourquoi cette décision qui a été prise par Biden, d'ailleurs, de l'arrêt définitif ?
Alors Biden a toujours été très réticent. Alors il y a des troupes américaines, pas beaucoup, mais il y en a. Mais surtout, il y a de l'appui aérien. Il continue à avoir de l'appui aérien. Et alors les talibans sont partout, mais à Kandahar, il y a encore des troupes gouvernementales afghanes. Au nord, il y en a. À Kaboul, il y en a. Alors les talibans lancent des offensives et grignotent tous les districts, toutes les provinces progressivement. Bon. Le problème, c'est que quand l'armée qui est formée par les Américains, par l'OTAN, est une armée sur un modèle occidental. C'est une armée très technique. Alors, elle est soutenue par une foule de contracteurs. Alors ça, c'était... Il y avait les
sous-traitants, étrangères.
Des contracteurs sont des occidentaux.
Des mercenaires.
Des employés, bien payés d'ailleurs, mais qui maintiennent, qui sont des mécaniciens, qui maintiennent en état le parc aérien, qui d'ailleurs n'est pas très abondant. Le parc aérien de l'armée afghane n'est pas énorme. Il est beaucoup moins important que ce que les soviétiques avaient laissé au gouvernement afghan.
Et vous pensez qu'avec ces fameux mercenaires, avec ce qui reste de quelques milliers de troupes américaines, avec du soutien aérien, les Afghans, l'armée afghane, nationale afghane, aurait pu tenir face aux talibans.
Ils auraient tenu un an ou deux ans de plus.
Pas plus.
Pas plus, faut pas rêver non plus.
Alors pourquoi Biden décide de se retirer complètement ?
Alors Biden a des...
Corollaire de la question, pourquoi Kaboul s'effondre en quelques semaines ?
Alors en fait, les Américains se retirent progressivement, retirent les contracteurs, retirent l'appui aérien. décide de ne plus soutenir le gouvernement afghan. Et puis il y a surtout des grandes déclarations.
Oui, mais cette décision de prise par Biden, il l'a prise contre ses conseillers.
Bah oui, puisque les généraux américains, ça fait 20 ans qu'ils sont là, l'armée américaine se dit, mais enfin, on ne va pas abandonner. Faut dire, quand on a fait un certain nombre d'efforts, on ne va pas abandonner des gens qu'on a formés, des gens avec qui on a combattu. On ne va pas les abandonner. Et donc, Biden, au bout d'un moment, et puis il y a ses réflexions, ils ne comprennent pas que l'armée afghane, qui est équipée, qui est entraînée, qui est même en effectif supérieur aux talibans, n'arrive pas à se battre.
C'est vraiment la grande question.
Alors, la grande question, non, l'armée afghane a été formée à l'occidental. Et elle a besoin d'un soutien matériel occidental, elle a besoin de communication occidentale. Et c'est une armée que l'on veut. C'est une armée qui est efficace en combattant avec des bataillons occidentaux pour les aider. Mais seule, elle ne peut plus. Si elle n'a plus.
Pour vous, c'est la raison principale.
Oui, c'est la raison. Non, ça a été analysé comme ça. C'est-à-dire que on a voulu. On n'a pas créé une armée de guérilla ou de contre-guérilla comme nous, on a pu faire en Algérie avec les commandos de chasse, des unités légères, qui d'ailleurs auraient pu correspondre, mais aux capacités afghanes. Quand je parle des unités de police, les unités de police, en fait, c'est de la milice locale. Hein. Et ça se bat très bien. C'est des gens qui se battent très bien, même avec pas énormément de matériel, parce qu'il y a des chefs locaux qui ont la mentalité locale et qui se battent bien contre les talibans. Alors, ça dure un certain temps. Alors, bien sûr, si en plus ils sont équipés, armés, avec des véhicules et de l'armement par les Américains, ça tient encore mieux. Mais là, au niveau général... tout s'évapore, en fait. Hein. Et puis, quand il y a les décisions d'abandonner l'appui aérien, et puis le président Ghani abandonne. Alors, il y a des tentatives de résistance. Il y a énormément d'officiers afghans qui veulent continuer à se battre. Et puis, il y a l'abandon. Alors, puis une négociation. Puisque la négociation qui est faite entre les Américains et les talibans, c'est de laisser une quinzaine de jours pour évacuer, entre le 15 août et le 31 août 2021. Alors là, on a les scènes d'évacuation qui sont absolument épouvantables. Alors, il est vrai que le front s'effondre vite.
Et c'est la question, c'est la dernière question que j'aimerais vous poser, Général Sido. Je rappelle votre livre, Les guerres d'Afghanistan. Nous étudions aujourd'hui avec vous la guerre américaine contre les talibans. C'est un livre passionnant que vous publiez aux éditions Perrin, coédité avec le ministère des Armées. Il nous reste 3 minutes seulement. J'ai 2 questions à vous poser. Comment comprendre ? Au-delà des raisons que vous avez expliquées, une armée de type occidental, l'armée de nationale afghane, on lui retire son soutien technique occidental, et bien elle s'effondre. Et comment comprendre cet effondrement en quelques semaines? Est-ce qu'ils ont tout simplement déposé les armes? Et puis Kaboul tombe le 15 août 2021. Vous avez servi aussi, comme d'autres militaires français, en Afghanistan. Qu'est-ce que ça vous a fait, la chute de Kaboul?
C'est un choc. Double question.
Pourquoi ça s'effondre en 2 semaines? Et puis vous, à titre personnel, comment vous l'avez vécu?
Alors ça s'effondre en 2 semaines, déjà parce que le président afghan abandonne, déjà parce qu'il ne se lance pas dans une... c'est pas vraiment un combattant. Bon, il avait fait des efforts pour l'armée afghane, ça faut reconnaître, mais avec des méthodes qui avaient créé de la division politique. Donc en fait, il n'y a pas de cohésion gouvernementale. Donc, alors il y a des généraux afghans qui acceptent de se battre, mais ils se battent avec quoi? Et puis, alors, quand le président prend l'hélicoptère avec quelques valises de billets, il disparaît. Il ne faut pas rêver non plus. Mais par exemple, vous voyez, en mai, il y a encore 2500 militaires occidentaux en Afghanistan. En mai. Et puis, les talibans progressent. Hein, ils prennent un district l'un après l'autre. Des troupes afghanes. Alors, il y a des troupes afghanes qui se rallient. Hein, les troupes gouvernementales se rallient aux talibans. Ça, c'est une grande tradition, parce qu'ils ne sont plus approvisionnés, parce qu'il n'y a plus de munitions, parce qu'ils se sont battus pendant un certain nombre d'années, ils sont fatigués, usés, ils abandonnent. Alors, voilà, il y a la négociation, voilà. Ça, c'est très classique. Et puis, donc voilà, alors le choc, bien sûr, c'est un conflit qui dure 20 ans, dans lequel toute une génération s'est investie. On a quand même...
Donc vous avez fait partie, Général Sidos.
Alors, quand vous y êtes tout au début... Alors, vous avez toujours la façon dont c'est fait, vous dites ça aurait dû être fait d'une autre façon. Mais enfin, quand vous êtes avec les Tadjiks au début, quand vous savez qu'un certain nombre de soldats occidentaux, un grand nombre de soldats occidentaux ont été tués là-bas, blessés, énormément de blessés, il ne faut jamais oublier ça. Nous, on a à peu près une petite centaine de tués, mais énormément de blessés, énormément de gens, et puis énormément d'efforts. L'armée française a fait énormément d'efforts dans cette guerre. Il y a eu une reconstruction de l'armée française qui s'est adaptée. Et d'ailleurs, la qualité de l'armée française s'est prouvée au Mali, dans la foulée. Donc ça vous fait un choc moral, quand tout est abandonné aussi vite.
Général Sidos, merci beaucoup d'être venu en direct ce soir témoigner de toutes ces guerres afghanes, auxquelles d'ailleurs vous avez participé durant la guerre américaine, que nous avons évoquée, que vous avez évoquée aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Les guerres d'Afghanistan, coédité Perrin, ministère des Armées. Merci beaucoup à vous, mon général, et à une autre occasion, j'espère, avec grand plaisir, pour venir ne serait-ce que commenter cette actualité. À bientôt.
Avec grand plaisir et merci beaucoup.
Merci, mon général.